Récemment, la Société du patrimoine mondial Anticosti a annoncé une grande première pour cette organisation. La publication d'un article scientifique dans une revue internationale de premier plan consacré à la géochimie des brachiopodes de l'île d'Anticosti. Il s'agissait d'un cinquième article scientifique soutenu par la Société. Et dans ce plus récent article, un membre de l'équipe de la Société et co-auteur de l'article, c'est le responsable de la recherche, M. André Desrochers, qui écrivait donc un article avec l'aide de d'autres scientifiques sur une étude qui révèle que les brachiopodes sont de véritables archives climatiques permettant de mieux comprendre la glaciation survenue il y a 445 millions d'années et dont l'île est le meilleur témoin dans le monde, mais aussi la première extinction de masse de l'histoire de la Terre. Là encore, où l'île se distingue par ses trésors archéologiques. Alors, ces petits mollusques, les brachiopodes, ont donc mérité cet article. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous fait nous entretenir avec Caroline Cloutier, la directrice générale de la Société du patrimoine mondial Anticosti. L'angle de l'entrevue d'aujourd'hui porte justement sur l'aspect scientifique, les recherches qui sont menées, mais surtout les recherches à venir, ici, à l'île. Bonjour, Caroline.
Bonjour, François.
Caroline, avec ces recherches qui sont menées de plus en plus régulièrement à Lille, on entend parler d'un projet de chaire de recherche qui serait associé à l'île d'Anticosti via la Société du patrimoine mondial Anticosti. Qu'en est-il? Est-ce que c'est fondé? Est-ce qu'on s'en va dans cette direction-là?
Oui, l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, on se rappelle, en fait, on aurait pu aller chercher une désignation pour toute l'île d'Anticosti, pour toutes ses caractéristiques, hein, son histoire, ses beautés naturelles. Il y a un choix qui a été fait, justement, de cibler ce qu'on appelle la valeur universelle, l'exceptionnel, qui est associé à sa géologie. On parle des fossiles, on parle de la stratigraphie. Quand on parle du dossier de la chaire de recherche, ce qu'on souhaite, finalement, c'est qu'il y ait des gens dédiés à étudier la valeur universelle exceptionnelle de l'île d'Anticosti, ce qui fait qu'elle est entrée justement dans la liste renommée de l'UNESCO. Donc, il y a de la recherche qui se fait sur tout plein de sujets sur l'île d'Anticosti, notamment la géologie, mais aussi la biodiversité, les sciences sociales. Par contre, au Québec, tout le volet justement d'études sur cette géologie-là exceptionnelle est encore extrêmement limité. Donc, ce qu'on souhaite finalement, nous, à la Société, avec nos partenaires, et c'est l'apport considérable de notre collègue directeur scientifique André Desrochers, qui permet tout ça possible, des gens aussi comme le Fonds de recherche du Québec, qui sont des alliés maintenant depuis plusieurs années. On se rappelle, peut-être certains avaient rencontré le scientifique en chef, M. Quirillon, ici sur place, sur l'île. Vous savez, l'île d'Anticosti, c'est souvent ça. Hein? On y met les pieds, il y a une petite étincelle et c'est ça qui permet de faire des grandes choses.
Donc, je comprends tellement pas à quoi faites allusion.
Donc, c'est un peu ça. On se croise encore les doigts. Il y a des pourparlers extrêmement intéressants avec une université québécoise, francophone, donc pour justement venir héberger un programme de recherche sur cette géologie exceptionnelle qu'on retrouve ici à Anticosti. Donc, on va venir rivaliser, si tout fonctionne bien, évidemment, avec d'autres institutions ailleurs dans le monde et on va pouvoir attirer que ce soit des étudiants, que ce soit des chercheurs, que ce soit des gens qui veulent communiquer aussi cette science exceptionnelle. Et quel est le rôle de la Société dans tout ça? Bien, c'est de travailler de concert avec cette université-là pour le déploiement de la recherche éthique et surtout faire rayonner, vulgariser. Parce qu'on le sait, la recherche, c'est important, mais la transmission des savoirs l'est tout autant également.
Et j'imagine qu'on ne peut pas évoquer le nom de l'université en question avec qui on discute présentement.
On a hâte de vous le dévoiler.
D'accord. En attendant, on perçoit aussi un désir de certains étudiants en sciences qui s'en vont soit vers la maîtrise ou le doctorat de se pointer ici. L'accompagnement, on comprend qu'il peut se faire, mais comment détecte-t-on les gens qui ont vraiment une démarche scientifique éprouvée, qui est valable et qu'on veut voir dans l'île, de ceux et celles qui, oui, s'y intéressent, mais feraient un peu de tourisme en même temps? Comment on réussit à analyser ça?
Je vais répondre très simplement aussi. Hein. Vous savez, lorsqu'on parle de venir à un endroit comme Anticosti, à déployer des recherches sur le terrain, ça exige quand même des ressources. On le sait, hein, ressources en transport, ressources en assistants terrain, etc. Donc, ça ne se fait pas tout seul, un projet de recherche, même si on a peut-être tendance à penser que les gens font ça comme ça. Donc, ça se fait avec des institutions qui veulent bien supporter ces projets-là. Donc, dans le cadre d'un partenariat important qu'on a avec le Fonds de recherche du Québec, la société est observateur. On voit ce qui se passe à l'arrière-scène, comment les projets sont sélectionnés pour aller chercher des ressources financières, justement, pour déployer leurs ailes sur un, deux, bon, dépendamment de la durée du projet de recherche. Ça, c'est le premier volet. Donc, évidemment, la question d'obtention d'une aide financière qui est rigoureusement contrôlée. Maintenant, nous, on a la chance d'avoir développé à l'interne un programme qui s'appelle l'incubateur de recherche. Donc, ça le dit, hein, on vient incuber des projets qui ont un potentiel énorme pour le rayonnement de la recherche sur l'île d'Anticosti. Donc, je ne vous cacherai pas, c'est des projets triés sur le volet. Il y a plusieurs personnes qui peuvent démontrer de l'intérêt. Il n'y a pas nécessairement plein d'élus. On y va tranquillement, justement, d'une année à l'autre. Puis on bâtit réellement une relation de partenariat avec ces chercheurs-là. Je vais vous donner un exemple aussi dans le cadre du Fonds de recherche du Québec, le premier programme que j'ai discuté avec vous. Il y a un chercheur qui a fait des études sur toutes les paysages, la géomorphologie qu'on peut dire de l'île d'Anticosti. Puis il est arrivé avec des nouvelles connaissances. C'est intéressant. Bien, au lieu de garder son papier de son côté, puis dans la communauté scientifique, bien, il est venu transmettre ces connaissances-là à toute l'équipe de la société et nos partenaires au mois de juin dernier. Fait qu'on a parcouru le territoire, donc c'est venu enrichir notre message d'interprétation. Je fais un petit lien ici.
Un vaste communicant, dans le fond.
Exactement. Comme on a dit, la transmission de cette recherche scientifique-là est très importante, puis ça peut passer justement par nos activités qui sont menées par nos guides interprètes pour une meilleure vulgarisation de ces propos-là.
Études et protections de ce magnifique territoire et de sa géologie particulière versus les changements qu'on voit dans le climat. Parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a un certain réchauffement. Moi-même, je donnais des statistiques la semaine dernière à l'émission sur les 4 dernières années où on voit que le mercure a grimpé. On sent que les vents sont présents ce temps-ci de l'année, mais les tempêtes sont pas forcément plus nombreuses, mais plus violentes. Ça inquiète ou ça... Ça appelle à des mesures ou quoi?
J'adore votre question. Vous savez, pour tous les sites du patrimoine mondial dans le monde, la menace numéro un, c'est les changements climatiques. Donc, Anticosti ne fait pas exception à ce portrait-là. Je vous dirais, la caractéristique, si on pense à la menace principale sur la valeur universelle exceptionnelle, si je reviens à cette thématique-là, c'est l'érosion côtière. Je pense que partout sur la Côte-Nord, aussi en Gaspésie, toutes l'Est du Québec, on connaît bien la dynamique de l'érosion côtière depuis plusieurs
tout
décennies.
Tout l'Est du Canada, en fait.
C'est sûr qu'ici, c'est différent. Hein? On parle de falaises rocheuses, c'est pas nécessairement une plage de sable ou en argile. Donc, c'est une autre dynamique côtière. Donc, il y a des études qui ont été faites avant d'aller chercher la désignation de l'UNESCO parce qu'on cherchait à documenter quelle était l'ampleur de cette menace-là. Elle est bien réelle. Cependant, c'est là la grande particularité, c'est que lorsqu'il y a de l'érosion en Anticosti, on vient exposer une autre page du livre de la vie. Passé, de l'extinction qu'il y a eu, justement, il y a quelques millions d'années.
Oui, quelques-uns.
Et voilà. Donc, d'un point de vue scientifique, il y a un intérêt quand même à ce renouvellement des faces de nos falaises fossilifères. Cependant, quand on parle d'infrastructure, c'est une autre chose. On sait, hein, l'être humain étant ce qu'il est, on a tendance à mettre nos infrastructures en bordure de mer pour la simplicité et aussi pour la vue et toutes sortes de raisons. On s'est établi un peu partout sur la côte en bordure de mer. Donc, il y a quand même des enjeux Anticosti sur la question des changements climatiques. On pourra en parler longtemps. Il y a non seulement l'érosion, mais il y a quand même la hausse du niveau de la mer qui peut faire partie des préoccupations. Et c'est aussi le changement dans tout notre régime de précipitation. Ça, je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. On le sait, qu'est-ce qui arrive avec les rivières un petit peu partout. Et sur Anticosti, c'est amplifié, justement, les différentes sécheresses. Je pense qu'une chronique changement climatique version Anticosti serait intéressante. On pourrait même parler de la question des feux de forêt. Je pense que les gens sont assez bien préparés à ces différents aléas, mais il faut évidemment mettre ce sujet-là sur le sommet de la pile parce qu'on n'en parlera jamais assez.
Et j'imagine aussi qu'il y aura... Ce sera un sujet d'intérêt pour des chercheurs aussi au niveau du climat que de justement amalgamer les changements climatiques avec le trésor de l'île et de venir ici faire des constats ou des études?
Bien, c'est essentiel. Je vous ai parlé des évaluations que le site du patrimoine mondial recevait de la part d'une organisation internationale qui est l'Union internationale de conservation de la nature, pas la nommer. Puis on en a déjà eu une. Ça a déjà commencé, ce processus-là. Puis un des critères d'évaluation, c'est comment on aborde justement la menace des changements climatiques, comment qu'on documente la question de l'érosion côtière, comment on prend des décisions en fonction de cette nouvelle réalité-là. Donc, on est dans le très, très concret ici. Alors oui, il va être nécessaire que non seulement les chercheurs s'y intéressent et nous aident à développer des bons outils, mais qu'il y ait des choses concrètes qui se passent sur le territoire.
Et concrètement aussi, il y a un espoir d'un tourisme un peu plus important. Et veut pas, la désignation attire l'intérêt. En même temps, c'est une pression de plus sur le milieu si on ne la gère pas correctement. Ça va être un défi, ça, autant au niveau des structures municipales, ça qui vous regarde un peu moins, mais ça va être un défi quand même de gérer un touriste pour pas s'il de la madeleiniser, si on veut, puis préserver ce trésor-là, mais l'exposer aux gens qui veulent le voir également.
C'est tout le grand paradoxe, hein. Vous savez, on va chercher des désignations comme ça parce qu'on a un trésor qu'on souhaite partager avec le monde entier. C'est tellement attractif qu'on finit par l'attirer, ce monde entier-là. Ouais. Il y a plusieurs sites, notamment des îles ailleurs dans le monde. Hein. Je pense qu'on a quand même un terrain de jeu pour aller explorer des modèles un petit peu partout. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, c'est pas des milliers de personnes, c'est des millions de personnes qui débarquent sur des territoires de très petite taille. C'est pas là où est-ce qu'on en est pour Anticosti. Je vous rassure, on est en mode prévention. Donc, le surtourisme, c'est quelque chose qui existe. Dépendamment de la taille d'un territoire, de sa capacité de support, ben faut mettre en place des choses pour ne pas que ça devienne un désagrément, autant pour les gens, mais aussi pour la nature. Donc, le rôle de la société serait davantage un rôle en prévention. Donc, comment qu'on est capable d'assurer un tourisme qui est durable, qui est responsable. Puis ça, ben c'est d'ouvrir le dialogue hein, avec les entreprises touristiques. On est déjà en train de le faire. Mais évidemment, c'est de travailler tout le monde ensemble parce qu'on ne fera pas tout seul.
Oui, j'imagine, par exemple, que l'Association touristique régionale regarde avec grande envie ce qui se passe à Lille en disant, ben voilà, un élément de vente pour nous. Et en même temps, c'est là qu'on doit dire, oui, c'est un élément de vente, puis on est d'accord. Mais on ne vend pas le territoire au complet. Là. Il faut contrôler éventuellement.
Ben oui, puis il faut que les gens soient prêts quand ils viennent ici. Je pense que tout le monde qui vit sur l'île d'Anticosti, qui est déjà venu faire des activités, le sait. Un des projets qu'on tient beaucoup à faire, puis d'ailleurs les idées sont bienvenues, c'est qu'on veut avoir comme les bonnes pratiques. Quelles sont les bonnes choses à savoir? Puis là, on ne parle pas d'une liste de 20 trucs. Là. Quelque chose de très, très simple avant de mettre le pied sur l'île d'Anticosti. Comment préparer les visiteurs réellement? Il y a un petit côté aventurier hein, dans tout ça. Donc, on ne veut pas créer des attentes et décevoir. Il faut dire aux gens quelle est la réalité de l'aventure anticostienne et que les gens soient prêts pour qu'il y ait vraiment une expérience qui est positive pour tout le monde et puis aussi pour la préservation du territoire.
C'est drôle parce que je suis dans cette dynamique-là ces jours-ci avec ma page Facebook où j'expose la vie à l'île telle qu'elle est avec tout ce qui la rend superbe. Mais en rappelant aux gens que vous n'allez pas à l'île d'Orléans non plus. Là. La nature ici, c'est elle qui mène quand même. Là.
Il faut une humilité pour habiter ce territoire-là.
Absolument. Et venir s'y investir aussi.
Complètement.
Caroline, merci beaucoup. Toujours passionnant de vous recevoir à l'émission. Puis on a déjà hâte à la prochaine fois.
À très bientôt.
Au revoir. Nous recevions aujourd'hui Caroline Cloutier, directrice générale de la Société du patrimoine mondial Anticosti. Ajoutons à ce reportage que l'indice de conservation du site du patrimoine mondial d'Anticosti est jugé bon par l'Union internationale pour la conservation de la nature, qu'on appelle aussi l'UICN. L'organisme international a publié le 11 octobre dernier son évaluation 2025 qui dresse un bilan positif de la conservation de l'île 2 ans après son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'UICN évalue tous les sites de l'UNESCO de la même manière et classe notre site dans la zone verte, c'est-à-dire bien protégée. Selon le rapport, Anticosti serait dans un bon état de conservation avec des tendances stables. La menace globale est considérée comme faible car la grande étendue du site et son éloignement géographique le protègent de la dégradation causée par les menaces naturelles, climatiques ou touristiques, hormis peut-être celles dont on a parlé avec Caroline. Voilà donc qui fait le tour pour aujourd'hui de l'aspect scientifique, la menace aussi des changements climatiques, mais également l'éventualité d'avoir à gérer un accroissement du tourisme sur le territoire de l'île Anticosti. Cette entrevue a été réalisée grâce à l'initiative du journalisme local financée par le gouvernement du Canada.